Je vous souhaite la bienvenue sur Radio Mayuri Campus dans votre émission Info Campus. J'accueille Monsieur Étienne Vernet. Vous êtes le directeur de Guyane Forest Initiative. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, Guyane Forest Initiative, lauréat de la deuxième édition du Forum Business Radio Mayuri Campus, qui s'était déroulé à Saint-Laurent-du-Maroni, à la librairie Le Toucan. C'était le 14 janvier dernier. Votre agenda ne vous avait pas permis d'être à Saint-Laurent et de pouvoir intervenir plus tôt sur nos ondes.
Je suis ravi de le faire aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier Radio Mayuri Campus pour ce prix et cette reconnaissance du travail effectué auprès des partenaires et avec les partenaires.
Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Vous avez remporté un chèque de 1000 euros, une année de spot publicitaire sur nos ondes, qui devrait démarrer dans les jours qui viennent. Un ordinateur portable, un téléphone portable, une box, Guya Box, des conseils en communication offerts par Nuage.com et aussi de la signalétique avec Signarama. On remercie au passage, bien évidemment, tous nos partenaires. On va maintenant parler de votre activité, de ce que vous faites. Vous êtes un bureau d'études à la base ?
On est un bureau d'études, tout à fait. Créé en 2014, qui travaille sur la problématique de projet à l'interface entre l'agriculture et la forêt. Donc un sujet vraiment très important pour le territoire, pour les acteurs économiques du territoire, que sont les agriculteurs, les forestiers et toutes les filières qui en découlent. Donc notre rôle intervient en amont de projets et dans la mise en œuvre de projets liés à ces filières.
Quels sont les aspects innovants de votre activité ?
Sont plusieurs aspects. D'une part, la promotion de pratiques innovantes en agriculture, aux côtés des petits agriculteurs et des agriculteurs conventionnels de la filière. Donc ça consiste à capter des fonds européens sur la base de consultations réalisées au préalable auprès des partenaires. On rédige les projets en partenariat avec les acteurs, chambres d'agriculture, les maisons rurales et autres structures étatiques et du territoire, et ensuite on les met en œuvre dans le cadre des objectifs qu'on s'est donné d'atteindre.
Vous travaillez principalement avec des petits agriculteurs ?
Principalement, mais pas seulement. Principalement parce que il y a un vrai besoin d'assistance, de soutien et d'accompagnement des projets pour ce type de ce profil d'agriculteurs qui n'ont pas toujours accès à Internet, qui ne sont pas au fait des possibilités de financement que leur offre l'État ou la collectivité ou même l'Europe. Et donc on a une vraie valeur ajoutée pour renforcer des pratiques culturales et traditionnelles, par exemple renforcer des activités liées à la gestion d'un jardin créole, l'introduction donc d'arbres qui peuvent faciliter ou renforcer la fertilité des sols de ces jardins, tout en préservant l'identité du type de culture qui sont faites sur ces terrains.
Vous intervenez sur tout le territoire ou principalement le littoral ?
Le littoral. Principalement sur la CCDS, la communauté des communes des Savanes, sur un bassin agricole plutôt proche de Sinamari, Irakoubo. Là, il y a des vraies problématiques d'accès aux fonciers et de valorisation de terre avec des sols qui sont souvent assez pauvres et qui sont rapidement épuisés et qui permettent d'accueillir des projets innovants donc liés à l'agriculture biologique, l'agroécologie ou l'agroforesterie qui permet d'introduire des arbres sur des parcelles agricoles.
Et comment ces agriculteurs vous contactent? Ce sont eux qui viennent vers vous ou c'est le contraire?
On s'appuie sur des associations d'agriculteurs. Sur Irakoubo, l'association des agriculteurs des savanes, qui regroupe 80 membres, petits, conventionnels ou même bio. Et donc, dans le cadre des consultations qu'on réalise en amont de la rédaction des projets, on s'accorde pour identifier des problèmes qui pourraient être résolus ou atténués en captant des fonds sur des lignes européennes provenant du plan de développement régional Guyane. Et donc là, à partir de là, c'est le montage du projet, souvent multi et pluridisciplinaire.
Il y a d'autres professionnels qui interviennent.
Voilà, c'est ça en fait. Okay. Nous, en tant que chef de file, on n'est pas l'homme, on se considère pas comme une structure orchestre. Voilà, c'est chacun à sa place, chacun son expertise, et c'est ça qui est intéressant dans le montage de projets européens, c'est que c'est la force des parties qui rend le projet intéressant et qui permet d'atteindre les objectifs qu'on se donne d'atteindre. Pour favoriser les petits agriculteurs ou les agriculteurs qui ont besoin de cette technique ou de ce soutien.
Quelles sont les dates clés de l'entreprise? Je sais qu'elle a été créée en 2014. Quelles sont les grandes étapes que vous avez franchies?
Les premiers financements qui permettent à une vision de naître. Les conventions signées avec les services de l'État ou de la CTG, la reconnaissance d'un travail lorsqu'on vient nous voir pour lorsqu'on a entendu parler notre travail et qu'une personne ou une structure souhaite qu'on les accompagne dans le montage et la mise en œuvre de leur projet. Il n'y a pas de date, c'est un travail de tous les jours, il n'y a pas de date plus importante que d'autres. L'intérêt pour nous, c'est que l'agriculteur avec lequel on a travaillé ou les associations avec lesquelles on a travaillé soient contentes de notre travail et que ce travail pérennise leur activité de producteur de produits locaux.
Alors, depuis 2014 que vous êtes installé dans le département, quelles ont été vos plus grandes satisfactions par rapport à des agriculteurs que vous avez pu accompagner et lesquels aujourd'hui ont pu développer leur activité? Vous avez pu voir une progression et surtout que ces agriculteurs soient parvenus à vivre pleinement en fait de leur activité.
Un des problèmes rencontrés avec nos partenaires, c'est l'accès au foncier. Donc déjà la reconnaissance d'un titre foncier, ça c'est une des premières étapes indispensables pour pouvoir accéder à des fonds européens. Donc dans ce cadre-là, avec l'association des agriculteurs des savanes, on a développé et rédigé plusieurs demandes de régularisation de foncier pour de nombreux agriculteurs et petits agriculteurs de la zone d'Irakoubo. Et puis à partir de là, les étapes la construction du projet parfois sont plus intéressantes que la finalité du projet. Arriver à convaincre un agriculteur de modifier sa pratique agricole pour introduire une innovation au sein de son exploitation et que cette innovation qui peut passer par la plantation d'un arbre qui va fixer l'azote dans un système déjà en production, c'est pas toujours facile à réaliser, mais quand ça se fait et que ça marche et que la production est augmentée du fait de l'introduction de ces arbres fixateurs d'azote, ça c'est vrai que c'est quelque chose de très valorisant et c'est ce qu'on essaye de reproduire le plus souvent possible, bien évidemment. Bon, il y a également l'accompagnement de nouvelles filières comme le wasai, côté de Yana Wasai. Voilà, les différentes étapes qui nécessitent l'apport d'une expertise qu'on peut leur amener, ça c'est quelque chose de très valorisant, oui.
D'accord, vous avez travaillé sur le projet Yana Wasai.
On travaille à leur côté sur la mise en place de projets pilotes sur des pinotiers naturels et sur la valorisation de terres dégradées hydromorphes, donc sur lesquelles on peut normalement pas planter grand-chose, d'autres que des wasai qui sont des plantes qui sont justement propices et qui s'adaptent bien à ces zones inondées. Et donc, dans les prochains mois, on va pouvoir à leur côté développer des projets pilotes qui vont renforcer cette nouvelle filière.
On est impatient. Où en est le projet actuellement?
Il est en cours final d'instruction et on devrait pouvoir lancer les premiers aménagements des deux parcelles pilotes qui sont envisagées à partir du mois de juin.
D'accord. Pour les néophytes que nous sommes, Monsieur Étienne Vernet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes, l'agroforesterie et l'agroécologie?
L'agroécologie, ça consiste à mettre en place des pratiques qui réduisent l'apport d'intrants chimiques. Donc on utilise la nature et l'association d'espèces pour atténuer les dégâts liés à des insectes ou des champignons. Et l'agroforesterie, c'est l'introduction d'arbres sur une parcelle, donc à des fins de renforcement d'une fertilité des sols, ou pour en tant que haie brise-vent, voire diversification d'une production en monoculture, comme il y en a souvent en Guyane. Soit on plante que de la banane, soit de la papaye, soit des prunes de cythère. Voilà, l'agroforesterie, on introduit entre les rangées des nouvelles espèces forestières qui permettent de renforcer l'activité productive de l'exploitation in fine.
Quel est le constat qui vous a amené à créer cette entreprise, à créer Guyane Forest Initiative?
Le constat, la nécessité de renforcer l'action des services de l'État et de la CTG auprès des agriculteurs. Constat qui est partagé par tous, d'un manque de présence sur le terrain, par manque de ressources humaines, plus que manque de techniques. Et donc, nous, on intervient en complément de ces structures auprès de tant du point de vue technique que du point de vue du montage administratif et de l'appui administratif.
En clair, les agriculteurs étaient un peu livrés à eux-mêmes par manque d'ingénierie et manque d'accompagnement technique.
Voilà, c'est ça, on peut le dire comme ça. Le territoire est
vaste.
Des moyens réduits de la part des services consulaires, Chambre de l'Agriculture, ministère de l'Agriculture, CTG, clairement. Et y a des zones où les agriculteurs ne voient pas un technicien depuis des années, ou lorsqu'il y en a un, il est là seulement une demi-journée pour 200 agriculteurs. Donc il y a des choix qui doivent se faire. la spécificité de l'agriculture tropicale, la difficulté de mettre en place une exploitation rentable fait qu'on a on peut rapidement se tomber dans un échec, hein, une fois qu'on a défriché une terre, si on n'a pas fait une étude de sol avant, même si on a une forêt, du coup, hop, les sols, c'est du sable blanc. Qu'est-ce qu'on fait sur du sable blanc? On avait un projet agricole qui peut-être est plus difficile à mettre en place. Et ce manque d'encadrement technique, dû au fait d'un manque de financement, hein, principalement. Mmh. Nous, on essaye d'atténuer ce manque par une présence ponctuelle dans le cadre d'un projet développé de façon collégiale et participative avec l'ensemble des acteurs. Ce qui fait que on développe une dynamique de projet qui est différente d'une dynamique que peut proposer une chambre d'agriculture ou un ministère, qui est plus dédié sur des grands axes stratégiques, alors que nous, on se concentre sur des problèmes identifiés en amont. Mmh. Et on accompagne la mise en œuvre des solutions aux côtés des agriculteurs. Voilà, c'est ça la grande différence et la valeur ajoutée d'un bureau d'études comme le nôtre.
Alors, au bout de 8 ans d'existence, quel est le bilan? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer selon vous? On a compris qu'il y avait une problématique au niveau du foncier qui ne facilitait pas l'installation des jeunes agriculteurs. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Hormis cela.
Souvent, les solutions proposées sont difficiles à mettre en place, même si elles ont été les problèmes identifiés sont clairement définis. Il y a parfois une difficulté de la part des agriculteurs à changer des pratiques.
Ok.
Donc ça, c'est un sujet sensible, hein, puisqu'on touche là vraiment à l'essence du travail de l'agriculteur. On ne peut pas se substituer à l'agriculteur. Mmh. Donc ça, c'est toujours difficile à faire passer, à l'innovation de passer.
On comprend.
La difficulté, c'est le changement d'échelle, de passer de quelques parcelles de dizaines d'hectares de pratiques innovantes dans le cadre de projets pilotes ou de démonstrations ou d'expérimentations,
okay,
à un vrai changement d'échelle qui soit compatible avec les objectifs nationaux de transition écologique ou transition énergétique. Mmh. Et là, c'est un travail de tous les jours. Notre équipe de 3 personnes, on aurait besoin d'être de se multiplier par 10 pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se donne d'atteindre. Mais le plus important, il faut rester humble devant la difficulté. Même s'il y a une seule personne qui change sa pratique, déjà notre objectif est atteint. Et on croit beaucoup à la reproduction par l'exemple. Et souvent, une fois qu'on a réussi à mettre en place une innovation, on s'aperçoit que les agriculteurs autour se prêtent plus facilement au jeu du changement, à l'innovation, à l'introduction de nouvelles pratiques. Et c'est ça qui compte, quoi. Voilà, 7 ans, c'est une goutte d'eau dans la vie du territoire.
On entend les agriculteurs parfois dire que le sol guyanais est ingrat. C'est un sol qui est difficile à travailler, donc ça les encourage à utiliser des pesticides. En tout cas, ils présentent les pesticides comme étant un passage obligé pour pouvoir avoir un rendement conséquent. Quel est votre avis sur la question?
Il y a différents profils d'agriculteurs. On peut pas tout changer d'un claquement de doigts. Donc il faut accompagner le
malgré les conséquences sur la santé,
voilà,
bien évidemment.
Ça, mais souvent, c'est la santé qui fait que les agriculteurs sont plus sensibles, comme vous le dites, à ce changement. voilà, quand ils doivent épandre des produits, que le soir ils reviennent en toussant, qu'ils sont malades, etc., et qu'on leur propose des solutions alternatives, innovantes, qui nécessitent certes un petit peu plus de présence sur le champ, donc des changements d'itinéraire technique.
Mais qui ne garantissent peut-être pas autant de rentabilité.
Alors on va avoir forcément une perte de rentabilité, mais in fine, une meilleure santé, oui. Une plus-value sur la vente des produits. Même si la filière est encore bancale à bien des égards, et souvent on n'a pas la valeur ajoutée qu'on souhaiterait pouvoir avoir lorsqu'on passe d'un produit conventionnel à un produit bio. Pour autant, l'expérience nous montre qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de candidats à cette innovation parmi les jeunes d'ailleurs. Et d'où l'importance de pouvoir montrer en s'appuyant sur des parcelles de démonstration et d'expérimentation la façon dont on peut promouvoir cette agriculture nouvelle. Les jardins créoles font de l'agriculture bio sans qu'on ait appelé à l'agriculteur bio. Voilà, une défriche raisonnée, on défriche pas tout, on plante diverses espèces sur une même terre. On préserve les zones humides, voilà. Et là, je pense qu'il y a une vraie, un vrai choix économique. Après, c'est vrai que il faut nourrir par une production locale la population, mais on voit que c'est pas si facile que ça de tout changer. Voilà, après il y a le coût des produits. Quand on fait l'analyse économique, on peut vite s'y retrouver. On peut vite s'y retrouver en faveur, bien sûr, de l'agriculture bio et agroécologique. Ouais.
Oui. Alors, est-ce que nous sommes à l'abri des problématiques auxquelles sont confrontés nos voisins des Antilles, je pense à la Martinique, la Guadeloupe, où les sols sont empoisonné pour des décennies, selon les études qui ont été menées.
Je
ne
connais pas bien le sujet, mais on en est loin. On en est loin.
Vous voulez être rassurant?
Non, je veux être rassurant, mais je veux surtout... on n'a pas du tout le même type de monoculture que dans les îles. On n'est pas sur de la monoculture de bananes. Il n'y a pas eu la même volonté de développer cette filière malgré les risques que cela comportait. Aujourd'hui, ici, on est plus sur une diversification des activités agricoles, une diversification des produits susceptibles d'être proposés aux consommateurs et une structuration des agriculteurs entre eux. Voilà, on a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent chacun dans son coin, très peu de coopératives qui permettraient de garder et de gagner en marge et donc en qualité de production.
Ça se développe un peu.
Ça se développe, mais c'est...
À Manaba, par exemple, il y a des exemples.
Voilà, mais le profil de l'agriculteur guyanais fait qu'on est plus parti sur un profil individualiste,
ouais.
De recherche de profit, avec des pratiques liées à l'absence de techniques qui étaient fortement dépendantes des intrants chimiques. Et aujourd'hui, ces mêmes agriculteurs s'aperçoivent que, comme vous le disiez, les terres agricoles ne sont pas toujours très bonnes sur le littoral. Et donc, il y a une vraie prise de conscience de la part des jeunes, notamment, mais qui est encore très encadrée dans une culture historique qui fait que tout ça, ça prend du temps. Voilà, il y a un respect des traditions qui font que... mais on y arrive petit à petit, on y arrive, on va y arriver, c'est le futur de l'agriculture et les consommateurs d'ailleurs le demandent. On voit bien la montée en puissance des demandes de produits issus de l'agroécologie, de l'agrobiologie. La Guyane va dans cette transition, participe à cette transition.
Alors, est-ce que les prix que vous proposez peuvent constituer un frein pour certains jeunes agriculteurs. Si oui, y a-t-il des solutions que vous proposez, solutions de financement tout simplement, hein, bah, pour pouvoir accéder à vos services?
Bah, nous, nos services sont, on
sont pas gratuits.
Bah, c'est un peu comme un avocat pro bono, quoi. Si le, pardon, si le, si le projet n'est pas retenu, ben on n'est pas payé. Si le projet est retenu, on a prévu une ligne budgétaire qui nous permette de rétribuer nos travaux et notre travail.
C'est pas l'agriculteur qui vous paye.
C'est pas l'agriculteur qui nous paye à hauteur du financement qu'il reçoit. Si l'action est financée à 60%. Il y est pour 40% généralement sur les fonds FEADER. On a des fonds qui permettent une subvention à hauteur de 60% ou 100% dans le cas d'association. Donc si c'est le cas, 100%, c'est 100% financé. Donc 100% de notre action qui est financée. Dans le cas d'un autre projet FEADER, on est plutôt sur du 60-40.
Alors, le nouveau président de la collectivité territoriale de Guyane prône l'autosuffisance alimentaire à une échéance proche. Quel est votre avis là-dessus?
Je pense que c'est un objectif...
Vous qui connaissez le terrain, qui y travaillez.
C'est un objectif qu'on se doit...
Ambitieuse
de, bah, de façon,
trop ambitieuse.
Non, on n'est jamais trop ambitieux. Hein, il faut, en tant que leader politique, il faut avoir des ambitions et se donner les moyens. Aujourd'hui, la première démarche, c'est l'accès au foncier. Voilà, donc une fois qu'on peut accéder au foncier...
On n'a pas beaucoup avancé là-dessus.
Non, mais c'est un sujet, c'est sensible. Donc, mais l'accès au foncier, c'est une première étape. Ensuite, l'assistance technique... Et caler les fonds en phase avec les objectifs de production, d'augmentation des productions locales. Et c'est vrai que c'est faisable. Pour la viande de porc et bovine fraîche, on doit pouvoir arriver. Sur les produits frais, ça prendra peut-être un peu plus de temps du fait de la difficulté de produire d'exercer une activité agricole dans des climats tropicaux. Mmh. Et c'est pour ça justement qu'il faut vraiment caler ces objectifs avec un renforcement de l'encadrement et une structuration à travers la mise en œuvre et la création de coopératives qui permettront de vraiment se concentrer sur les filières qui en ont besoin.
Donc à vous entendre, il faut libérer du foncier, ça paraît évident, il faut de la formation, il faut monter, accompagner ces agriculteurs pour qu'ils puissent monter en compétences, et il faut aussi sur le terrain des personnes formées, des ingénieurs, des personnes qui possèdent une vraie expertise pour les accompagner au quotidien.
C'est ça, c'est un travail de tous les jours. Mmh. 4 ans, 5 ans, 10 ans, et qui est un suivi et une continuité dans l'action politique. C'est ça le plus important. Voilà, c'est... de toute façon, le territoire, pour ça, les politiques ont bien compris qu'on ne peut pas... On ne peut pas changer de fusil d'épaule au gré des résultats des élections. Donc il y a des grands thèmes qui doivent être repris et qui doivent être suivis et reconnus comme prioritaires par les services concernés de l'État et du territoire. Voilà, aujourd'hui, ça semble être le cas. Il y a une vraie continuité et ensuite, c'est la méthode qui changera peut-être, mais en tout cas... l'action qu'on mène, nous, aux côtés de ces acteurs, reste la même au profit et au bénéfice plutôt des agriculteurs. C'est ça le plus important. Mmh. C'est là vraiment où il y a un vrai besoin.
Vous avez le sentiment de continuer à bénéficier du même soutien avec l'exécutif actuel que l'ancien?
Oui, il n'y a pas de. Nous, on est au-delà des structures politiques. C'est la qualité du projet. C'est un comité pluridisciplinaire qui juge de la validité et de l'éligibilité du projet proposé. Donc, il n'y a pas d'aspect politique qui rentre en compte. Au contraire, c'est plutôt l'aspect technique qui prédomine. Et c'est très bien comme ça.
Très bien, monsieur Étienne Vernet, je rappelle que vous êtes le directeur de Guyane Forest Initiative, lauréat de la deuxième édition du Forum Business Radio Mayuri Campus. En un mot, quelles sont, en une phrase peut-être, quels sont vos projets? On sait que vous devez emménager dans de nouveaux locaux, mais hormis cela, quels sont vos autres projets?
Nous, ce qui compte aujourd'hui, le gros défi de ces prochaines années, c'est la question de la restauration écologique des terres dégradées. Voilà, l'accès au foncier qui nécessite parfois un défrichement de terres, de forêts, de façon optimisée. Mais il y a aussi beaucoup de terres dégradées qui sont laissées à l'abandon. Et donc, on entend... travailler sur ces questions de restauration écologique sur les terres dégradées pour renforcer la filière agricole. Et puis la question de la filière bois, qui est très importante aussi, et de pouvoir développer des aménagements sylvicoles dans le cadre de l'application des recommandations du plan forestier régional bois de Guyane.
Parfait. Je vous remercie. Au revoir.
Merci, au revoir.